RMC, Viva Padel.
Viva Padel.
Nicolas Paolorsi.
Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Viva Padel. Vous nous avez manqué, on espère que vous avez téléchargé en masse pendant ces petites absences parce qu'on a des emplois du temps, mais chargés dans tous les sens là. Ça joue au padel, il y a des projets qui sortent de partout. On vous promet qu'on va être plus régulier sur la fin de l'année pour vous proposer un maximum d'épisodes. Lui, je peux vous dire qu'il a un emploi du temps. Emmanuel Macron et le roi Charles III à côté, c'est léger. JT Perrault, notre coach padel, est là. Salut mon JT.
Salut Nico, salut à tous.
Ça bosse en ce moment, hein. Il y a plein de choses dans l'actu padel.
J'ai
hein.
l'impression que ça bosse beaucoup. Ouais. Ouais. Mais je suis là.
Il est coquin celui-là, il a plein de projets. On peut pas trop en parler, hein. Il y a plein de trucs secrets, mais bon, ça arrive très très fort. On peut vous le dire. Programme ultra chargé aujourd'hui. On va revenir bien évidemment sur le Green Whiz Paris Major. Ça a été un vrai succès populaire, mon JT, un triomphe avec la victoire de Coelho et de Tapia, bien sûr. Mais au-delà de ça, il s'est passé plein de choses pour le padel qui sont des signes vraiment marquants du développement de notre sport. Le Master de Madrid, quand même, ça joue un petit peu en ce moment. Hein. Bon, on va vous dire que le World Padel Tour en ce moment, c'est plus trop la tendance, mais quand même, les meilleurs joueurs sont là-bas cette semaine. Et puis, il y a les championnats de France qui débutent ce week-end. Ça, c'est une grosse, grosse échéance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas Adrien Maigret, Benjamin Tison, Jérémy Scatena avec nous aujourd'hui.
Ils sont en train de jouer, là.
Parce que voilà, ils vont débuter leur tournoi. Et puis, une grande nouvelle pour le circuit pro. Un seul et unique circuit l'année prochaine. On l'attendait un petit peu, cette nouvelle de circuit unifié, mais on va vous détailler tout ça. Et puis, une puerta de JT un peu spéciale consacrée au physique. Parce que JT, c'était un limeur. C'est un ponceur quand il jouait. Et il va nous parler du physique au padel, comment bien se préparer pour jouer au padel, même quand on est un amateur, qu'on développe la pratique. Hein. Est-ce qu'il faut bosser le haut du corps pour taper fort, le jeu de jambes, bref. On va vous donner plein de petits tips pour progresser physiquement. On sera avec un préparateur physique, Gaël Le Glédic, qui viendra nous donner ses petites astuces. Lui, il coach aussi des joueurs professionnels. JT, t'es prêt ?
Je suis chaud.
C'est un menu copieux. Hein.
C'est copieux.
Allez, viva padel, c'est parti.
RMC, le par 3 de Viva Padel.
JT y était, c'était le gros événement de cette rentrée scolaire, le Green Whiz Paris Major. À Roland-Garros, bien évidemment, sur le Châtrier, une finale de dingue, un week-end finale de dingue d'ailleurs, 8000 personnes, ça a été une vraie fête populaire. Déjà, avant de parler du sportif, JT, vraiment, raconte-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait là-bas. On a l'impression que le padel est rentré dans une autre sphère grâce à ce tournoi.
Il est déjà rentré dans une autre sphère, à mon avis, l'année dernière, lorsqu'on a eu un tournoi de padel à Roland-Garros. Et là, cette année, la date a été décalée, donc en septembre. Les vacanciers parisiens étaient présents. Donc forcément, en début de semaine, il n'y a pas eu trop de monde. Si on a eu connu déjà, premièrement, un week-end de qualification énorme.
Ouais.
Je crois qu'il y avait plus de 3000 personnes pour supporter les Français sur le Châtrier. Week-end des finales incroyables où le directeur du tournoi, Arnaud Di Pasquale, a ouvert la dernière couronne. Tellement il y avait de place en vente sur le Châtrier. Donc on n'a jamais vu le cours central avec une ferveur aussi importante. C'était... Enfin, pour nous là, qui avons découvert le paddle dans les années 2014-2015, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui nous arrive. Donc, je crois que même pour les joueurs, quand on voit les réactions de tous les meilleurs joueurs du monde, qu'on voit Bella comme un enfant, José Maria et Harry Sanchez qui prennent des photos avec la statue de Rafa, on sent voilà que tous les joueurs de paddle vivent un moment extraordinaire. Et je pense qu'on est qu'au début. Le paddle va rentrer dans une nouvelle ère, il est en train d'y rentrer et bah, ça va faire boule de neige, ça va être exponentiel. On est au tout départ, j'en suis persuadé.
Il y a eu des ambiances de dingue. Moi, je pense à ce match d'Adrien Maigret et de Jérôme Inzerillo en tout début de semaine. Ils étaient même pas sur le central. Ils étaient sur le court numéro 2. Et ça faisait vraiment ambiance Roland-Garros, tennis, début de tournoi, quoi. Quand tu vas avoir joué des Français sur un court annexe. Et ça, c'est dingue parce que ça veut dire que le public répond présent, qu'il n'y a pas que les gens qui jouent au padel sur Paris, qui viennent voir les gros matchs. Ça veut dire que la masse un peu s'intéresse à ce sport-là, JT.
Il y a une véritable ferveur. On le sent, on le ressent dans les clubs ou comment les joueurs qui commencent à s'intéresser au paddle, suivent nos meilleurs joueurs français, suivent les meilleurs joueurs du monde. Adri et Inze ont fait une performance incroyable, je suis tellement deg pour mon Adri.
Faut que tu nous racontes un peu le scénario du match, JT, mais ils perdent 7-6 au 3-0.
J'ai suivi ça un peu en pointillé, forcément j'ai eu Adri et Jérôme après au téléphone. Adri me dit voilà, il joue deux mecs top 100 mondial, Riviera, Mercadal, des joueurs super forts. Alors, on va dire ouais, il y a pas de Français au deuxième tour, mais il y a quelques années, c'était impensable de les accrocher ces joueurs-là. Donc le paddle français a vraiment évolué, c'est ça qu'il faut retenir. Adri fait un début match un peu poussif, de ce qu'il me dit, un peu pris par l'événement, par la pression. Ils sont menés 6-4, 5-2, il y a un break et là il y a un truc qui se passe quoi. Psychologiquement, ce qu'il me raconte, c'est que voilà, il se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de passer à côté de mon match, c'est mon moment, c'est Roland. Ils remettent un peu les bouchées doubles, ils jouent un peu point par point et là le match s'inverse et là ça part dans une scénario un peu incroyable. Ils gagnent le deuxième set, ils ont balle de match au troisième, le public c'est la folie et ils perdent malheureusement 7-6 au troisième set. Avec Jérôme percute crampe, mal au tendon d'Achille,
rôti complet,
rôti un peu blessé, mais voilà, je le tire aussi un coup de chapeau. On en parle pas souvent de Jérôme Inzerillo, mais ces moments-là, il les gère tellement à la perfection. Il a un peu voilà cette grinta de joueurs pro qui gère les événements comme ça. Je l'avais vu moi en équipe de France, il arrive à faire basculer le match, à tenir Adri et tous deux ils créent une osmose. Ils basculent le match, ils sont à un point, un chouïa, ils ont balle de match à 5-3 à service pour les Espagnols. Ils servent pour le match, ils passent un peu à côté de ce jeu-là et là le match s'inverse, ils perdent 6 au troisième.
Ultra cruel, avec un Jérôme Inzerillo, c'est vrai, qui a porté Adri. On l'invitera, Jérôme, dans ouais. le podcast, parce qu'en plus, il fait partie de ce profil de joueur pro qui, lui, ça a été un très bon joueur de tennis,
oui.
Jérôme. Donc voilà comment il a réussi à switcher un peu de la casquette de tennisman à joueur de padel, ça sera super intéressant. C'est vrai que ça a été une des grosses émotions de ce début de semaine, ce match. Malheureusement, JT, si on fait un peu les difficiles, tu le disais, c'est vrai que le padel français progresse, mais en termes de résultats, voilà, notre Bentizon qui passe pas le premier tour avec Victor Mena, ça perd en 3, Thomas Legg pareil, tous les matchs sont serrés en fait pour les Français, mais ça passe pas et on attend maintenant une petite perf. On devient de plus en plus gourmand avec notre padel français parce qu'on sent que nos joueurs en sélection avec l'équipe de France sont capables de battre les meilleurs paires du monde. Alors, les Espagnols, les Argentins, mais les Portugais on les accroche, les Brésiliens on les accroche et on attend maintenant que ça se retranscrive dans ces tournois un peu de premier ordre.
On adorerait.
Je suis gourmand. Bon, hein.
Mais ouais, t'es gourmand.
Ah oui, mais j'ai toujours été gourmand.
Un peu trop gourmand, un peu trop.
J'ai pris un peu de poids en plus ces derniers temps.
On adorait avoir un Bentizon en quart, en demi-finale du Major à Paris. Je pense que pour le moment, c'est encore un peu dur.
Ouais, mais deuxième tour,
Ben, il est passé. Ce match-là, je pense que ça lui trotte dans la tête parce que ils perdent contre deux joueurs vraiment à sa portée. Raoul Marcos et son partenaire avec Victor Mena. Voilà, Ben un petit peu blessé au poignet, joue un peu sous infiltration, pas sûr d'être au championnat de France. Ils ont eu plein d'opportunités dans ce match-là, c'est pas passé, mais voilà, moi je garde quand même à l'esprit que voilà, il y a quelques années, battre ces mecs-là, les accrocher, pouvoir jouer contre eux, c'était impensable. Voilà, il y a plein de joueurs dans le paddle, l'ancienne génération du paddle français disait mais non, c'est impossible, ils sont trop forts, et eux, à force de courage, de bonne volonté, sont partis en Espagne. Benjamin Tizon, il fait partie des 70 meilleurs joueurs du monde, quoi.
C'est sûr.
Voilà, donc
de toute manière, on l'aura Ben, hein, bien sûr, dans les prochains épisodes de Viva Paddle. Adri aussi, ils vont nous raconter comment ils ont vécu cet événement à Roland, et puis on parlera aussi du début de saison des Français, parce que c'est vrai qu'il y a quand même matière à débat. Autant quand on tombe contre des joueurs du top 20, top 40, on sait que c'est très difficile, mais c'est vrai que sur joueurs du top 100, on peut avoir un petit espoir, surtout quand on est Bentizon. Il a une saison difficile, on le sait, hein, il nous en parle beaucoup, mais ouais. Des pépins physiques. Donc voilà, c'est pas facile pour lui par rapport à l'année dernière. On reviendra sur tout ça. La finalité, c'est quand même la victoire des numéros 1, une nouvelle fois incontestée. Coelho Tapia, finale de dingue, hein, contre Paquito et Chingoto, qu'on franchement retourner le public français dans leur poche.
Ouais.
C'est incroyable. Paquito, Showman, ça matche tellement bien avec la France. Chingoto aussi, on aime bien ça en France, tu sais, le petit un peu qui vient défier David contre, c'est David contre Goliath. Bon, ils ont perdu, mais c'était quand même fou cette fin de tournoi.
Fin de tournoi de dingue, Coelho Tapia, je crois qu'ils assoivent un peu leur place de numéro mondial. C'est les numéros mondiaux incontestés depuis le début de l'année. Chingoto et Paquito font encore finale de Grand Chelem. Je pense qu'aussi pour ces joueurs-là, voilà, les Grand Chelem vont être vraiment des tournois qui vont marquer vraiment sur leur calendrier. Et ça va être comme le tennis, ça va être représenté. Vraiment, ces quatre tournois du Grand Chelem vont être vraiment importants pour eux. Toujours les mêmes finales. Chingoto Navarro qui arrive en finale tranquillement. Coelho Tapia qui s'en fait peur aussi au premier tour. 7-5 au troisième. Mais bon, voilà, ils sont toujours là. Ils gagnent toujours. Et Coelho Tapia en finale, incroyable, hein. Franchement, ces deux joueurs impressionnants, hein, Nico, hein. Il m'épate. On va voir hein, jusqu'à quand ça va durer, mais je pense que c'est parti pour durer, hein.
Mais ça devient même un peu lassant.
Non. Moi, j'adore les voir gagner. Franchement,
mais toi, t'aimes bien les gagnants. Moi, je suis. Voilà, moi, je veux voir mon petit Chingoto, là, 1m65, 70.
Écoute, c'est la finale. Premier set incroyable. Un peu comme à Rome. Il y a un peu un changement de tactique en fin de premier set où il commence à un peu loper Bakito et Colo qui vient s'interposer. Il gagne le premier set et je sens qu'ils ont un peu abandonné. On avait une vidéo avec Gabi Reka et Chingoto qui se prennent un peu la tête sur
c'est
le
l'entraîneur,
terrain.
Hein, Gabi Reka,
l'entraîneur,
Chingoto de,
l'entraîneur de Chingoto et Paquito qui invective un peu Chingoto en lui disant allez vas-y
je crois qu'il lui même poste des baloches sur la table
et
voilà.
Un petit peu comme ça et Chingoto le prend un peu mal, Paquito sent qu'ils peuvent pas gagner, un petit aveu de voilà de faiblesse quoi et Paquito laisse passer un peu le second, ça fait 6-1. Coelho Tapia propose un paddle tellement révolutionnaire, tellement fou que ça en devient très compliqué de pouvoir les battre.
JT, est-ce que toi quand t'étais là-bas quand même et après on partira sur une autre thématique mais t'as pu voir chez les joueurs vraiment ce côté magique de jouer à Roland. On en a parlé déjà l'année dernière, mais tout ce qui se passe autour, jouer sur le Châtrier quand on est Bella, quand on est même les meilleurs joueurs de padel du monde, c'est quand même ultra spécial.
Alors, je vais te raconter un truc. J'arrive donc le jeudi, c'est le jour des huitièmes de finale, et donc je commence à arriver dans le stade Roland, et c'est le matin, il n'y a pas de match. Et là, donc, je traverse un peu les coursives, je rentre dans les coulisses. Et là, on ouvre les portes et là, je rentre dans le Châtrier. Et là, tu vois ce terrain de paddle là. Franchement, ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait des frissons parce que je m'imagine, si tu veux, voilà, toute l'histoire qu'il y a eu sur ce terrain-là, quoi. C'est Yannick Noah en 83, c'est la décima de Raphaël Nadal. Enfin, je veux dire, c'est un moment incroyable, Roland Garros. Et là, de voir un terrain de paddle et je voyais les joueurs s'échauffer au départ, bah, moi, ça m'a foutu des frissons. Tous les joueurs, ça leur fout des frissons. Je pense que 2 ans en arrière, ça aurait été impensable de s'imaginer qu'il y a un tournoi à Roland-Garros. Donc, bravo à la fédération, bravo au paddle, bravo au premier paddle, bravo à tout le monde. Je sais pas qui remercier. Emmanuel Macron, Adrien Maigret, Benjamin Tizot.
Peut-être un peu loin. Mais en tout cas, longue vie à ce tournoi au Green Whiz. Vraiment, on espère qu'il y aura plein d'autres éditions parce que c'est vraiment génial à regarder. On n'a pas parlé encore d'Alix Colombon, mais qui a fait un super tournoi, quart de finale à la maison, avec une nouvelle partenaire. C'était pas facile. Elle s'est séparée de Victoria Iglesias. Et elle retrouve une jeune Espagnole avec qui elle s'associe. Et ça paye. Et franchement, pour Alix, c'est un peu... juste au retour des choses quoi. Quand on sait comment elle bosse, franchement il fallait que ça tourne et c'est cool que ça ait tourné à Roland.
Alix, quart de finale du Grand Chelem à Roland. Je pense que c'est son tournoi. Chaque année elle va vouloir briller à son tournoi. Chaque année elle va vouloir faire mieux. Et là, ouais, pour la croiser dans les travées, il y a une ferveur quoi. Les Français ont envie qu'Alix aille au bout du tournoi. Je pense que entre les filles et les garçons, c'est elle qui l'a mieux placée pour le réaliser. Elle fait un super tournoi en huitième de finale, en quart de finale. Elle gagne en 2-7 et là, elle pousse le public. Elle arrive en quart de finale où elle joue Arroyo et Salazar. Mmh. Donc, une top paire. Et là, il y a un premier set vraiment incroyable où là, j'ai pu assister au match. Elles ont le break dans le premier, elles sont pas loin, elles mènent 4 ans, elles font un super début, le public pousse et là ça s'inverse un petit peu. Voilà, il y a ce petit cap à passer pour Alix, hein, comme contre les sœurs Alaghetto au Major de Rome là en quart de finale. Voilà, il y aura ce petit cap à passer. Elle va y arriver, j'en suis persuadé, elle n'en est pas loin et toute la France et tout le public français du paddle est derrière elle, c'est sûr.
Elle aime ses gros tournois en tout cas, hein. Tu le disais, quart de finale à Rome, quart de finale à Roland, elle arrive à se transcender Alix dans ce genre d'événement, c'est pas facile. Hein,
c'est chez elle, public français, sur Roland, sur le Châtrier, donc forcément on aurait adoré voir Alix en demi-finale ou en finale, ça va être...
L'année prochaine.
Allez, on y est.
L'année prochaine. Bon, on reparlera bien évidemment de ce Green Whiz, hein, avec Ben Tizon, avec Adrien Maigret, on vous le disait, avec d'autres joueurs français, Jérémy Scatena, qui ont pu profiter de ce tournoi magnifique. Il y a actuellement cette semaine les meilleurs du monde qui jouent encore à Madrid, Masters. On repart cette fois sur le circuit du World Paddle Tour. Il y a eu une surprise, c'est pour ça qu'on va en parler. Sinon, il s'est pas passé grand chose. Hein. On a vu un Tapia avec les cheveux peroxydés. De cheveux qui tirait très bien mon JT. Visiblement, après sa victoire à Roland, il est passé chez le coiffeur. Mais sinon, à part ça, on a surtout vu Galan et LeBron perdre hier en huitième de finale contre Sagno. Sagno qui a une nouvelle association puisqu'il s'est séparé de Momo Gonzalez. Et grosse surprise quand même hein, de taper Galan Lebrun. Non mais, me dis pas que Agustin Gutiérrez, Sagno Gutiérrez, tu les voyais battre Galan Lebrun en huitième. Oui, je le vois à chaque fois, il fait la mouche sur la tête.
Non, pas du tout. Mais bon, je sais pas, c'est la famille, c'est le sang quoi. Ouais. Les deux Gutiérrez associés ensemble, incroyable, ils battent Galan Lebrun 10-4 hein. C'est son neveu. Donc c'est magnifique, je pense que voilà, il a besoin de soi, il a besoin de ça, son niveau, de se sentir un peu le maillon fort de la paire, tu vois. Et là, de jouer avec son neveu, bah, ça a dû sans doute le transcender. Et puis 6-4 au troisième, victoire contre Galan Lebrun. Incroyable hein, ce match-là quand même. Galan Lebrun dans le dur, hein, mon Nico. Hein, ouais. Toi qui les adores.
Moi j'adore Galan. Moi j'adore Jean-Tridéal, PG. J'adore Galan. Mais
ils sont dans le dur. Ouais, ils sont dans le dur. Juan Lebrun qui a du mal à retrouver son niveau de jeu, les conditions, qui lui plaisent pas trop. Ça sort moins qu'avant. Il est moins percutant. Il fait moins mal avec son smash. Les joueurs en face de lui rentrent beaucoup sur lui par le haut. Et il a tendance, à être un petit peu plus conservateur. Physiquement, je trouve qu'il est beaucoup moins percutant qu'avant.
Ouais. Et puis mentalement, fébrile. Hein.
Quand l'un va pas, l'autre va pas. On en parlera avec Gaël, mais je veux dire, physiquement, on le sent moins percutant. Les autres progressent et il rentre beaucoup sur lui. L'alchimie se fait moins et bon, il reste quand même sur une victoire au Apple Tour de Finlande. Ça leur a fait du bien. Voilà, une défaite en demi au Major de Paris et là, une défaite en demi.
Ils sont moins réguliers. Alors c'est sûr qu'il y a énormément de tournois, donc tu te dis que tu peux avoir un accident, mais ça fait quand même quelques accidents et c'est pas anodin. Moi, je mets une petite piécette sur la séparation en fin d'année. Je pense qu'ils vont aller au bout là, au mois de septembre. Je mets une petite piécette. Au mois de décembre, pardon.
Et après, tu penses qu'ils vont se séparer. Ouais. Ah, je sais pas, on va voir.
Tu mets pas de piécette, toi?
Non, moi je pense qu'ils vont rester.
T'es le roi des paris et là tu mets rien.
Je mets rien, je pense qu'ils vont rester.
Ok, tu me suis pas.
Ouais, non, je te suis pas.
On se projette sur les championnats de France, mon JT, maintenant, dans Viva Padel, puisque ce week-end ont lieu les France. Grosse échéance pour tous nos joueurs français. On le sait, c'est un des objectifs à chaque début de saison. Bastien Blanquet, Thomas Legge, tenant du titre chez les garçons. Alix Colombon, Léa Godelier chez les femmes. Chez les femmes, bon, on peut se dire quand même que sans surprise, Alix et Léa font vraiment figure d'immenses favorites. Même si Jay Gigné, Lucille Potier, on se dit qu'elles peuvent peut-être rivaliser, mais sinon, il y a moins de concurrence. Alors que chez les garçons, cette année, il y a une vraie densité avec des paires comme Skatena Guichard. Bref, on a l'impression vraiment que ça peut. Qu'il peut y avoir une surprise, quoi, et que la finale, elle n'est pas écrite avant l'heure, quoi.
Il y a eu les tirages de sort du tableau déjà.
Oui. Donc, donne-nous ce tableau.
On a les deux premières têtes de série qui sont Skatena, Jérémy Skatena et Dylan Guichard qui sont en bas du tableau. Et en haut du tableau, les tenants du titre, Bastien Blanquet et Thomas Legge. La troisième paire qui, à mon avis, et j'ai envie de te dire, moi je les place sur le papier en tant que tête de série numéro 2, Benjamin Tison et Adrien Minguet, se retrouvent dans la partie haute du tableau, donc avec Bastien Blanquet et Thomas Legge.
Potentiellement en demi-finale.
En demi-finale, exactement. Moi je pense que c'est une de ces deux paires-là qui vont gagner le titre de champion de France. Je pense que la finale elle va avoir lieu samedi après-midi entre Adrien Minguet, Benjamin Tison, Bastien Blanquet et Thomas Legge. Hors blessure, s'ils ont vraiment un état de forme, je pense que c'est ce match-là qui va déterminer notre paire de championne de France. Je les vois clairement au-dessus, dans des conditions qui vont avantager l'un et l'autre. Ça va être un match hyper tendu. Bastien, chez lui, à Toulouse, en France, il est impressionnant. Il est très, très fort. Benjamin et Adrien se connaissent par cœur. Ils ont un jeu hyper percutant. Le toit est plutôt bas. Les balles sont plutôt vives. Donc, ça va y avoir une confrontation qui est incroyable. En bas du tableau, on va pas les oublier. Il y a Jérémy et Dylan. Ils sont venus un peu s'entraîner à la maison cette semaine.
En Fee Prize au Japon.
Ouais, sur un titre en Fee Prize au Japon, Nicolas. Il reste sur un titre. Bon, tu veux que je te dise le fond de ma pensée.
On relativise, l'opposition n'était pas ouf.
Ils ont joué flic et fluc. Hein. Enfin,
ils sont japonais, flic et fluc.
Mais ils ont joué. je plaisante. Pardon, Dylan, pardon, Jérémy. Ils ont gagné un Fee Prize. Pas forcément très relevé. Faut le gagner.
Non, mais je veux dire.
Bravo à eux, c'est top.
Au niveau de la confiance,
ça peut y jouer. Mais tu sors aussi d'un voyage long. T'as le jet lag. Tu viens de rentrer, on est lundi. T'as les France qui commencent. C'est 5 matchs à gagner en 3 jours. C'est dur. Et puis il y a d'autres paires aussi. Julien Serin, Manuel Vives à battre. Ils vont jouer Dorian et Thomas que j'entraîne au deuxième tour. Enfin, avant d'arriver en finale, il y a des matchs. Je les sens un peu logiquement. Si la hiérarchie est respectée, bien sûr, Jérémy et Dylan devraient arriver en finale de ce tournoi. contre Bastien, Thomas ou Adrien et Benjamin.
Si t'as une petite surprise, mon JT, une paire un peu, tu parlais de Julien Sorin, Manu VVS, ça c'est vrai que ça peut vraiment créer la surprise. Tu parlais de Dorian Demeyer, Thomas Van Bos, y a plein franchement de paires ultra compétitives là. Mais si t'avais une ou deux paires qui peuvent venir troubler l'ordre établi, on pense pas beaucoup à Nico Trancard et Loïc Lepons, mais qui sont là à chaque fois, qui sont finalistes.
Non, si tu veux, le paddle est devenu hyper équilibré. Donc les matchs se jouent à pas grand chose. Le niveau français a énormément augmenté. Donc un peu tout le monde peut battre tout le monde. Chaque match est hyper accroché. Si les têtes de série, elles sont pas vraiment au taquet sur tout le match, elles peuvent se faire croquer. Ça, c'est une certitude. Donc je suis persuadé qu'il va y avoir des surprises. La paire qui aurait pu vraiment faire pencher la balance et qui est absente, il faut le rappeler, Nico, c'est Jérôme Indiriou et Max Moreau.
Ouais.
C'était clairement la paire numéro 4 de ce tournoi. Donc, en leur absence, une partie de tableau est un peu moins importante que l'autre. Julien Serin et Emmanuel Uvès jouent extrêmement bien, progressent, sont hyper complémentaires. On fait un match à Roland incroyable devant 3000 personnes le dimanche. Donc ils vont surfer un peu là-dessus. Ça peut être les épouvantails de ce tournoi dans la partie basse du tableau. Je vais pas parler des petits jeunes que j'entraîne, Dorian et Thomas, qui traversent une période un peu difficile, mais eux aussi sont capables de bien jouer sur un tournoi. Et puis il y a plein d'autres paires, quoi. Ça promet des matchs très denses, très disputés. Faut que je donne mon vainqueur là du tournoi.
Bien évidemment, JT. Bien évidemment. Attention, le pronostic de Jean-Thomas Perrou, c'est maintenant.
Ah putain, il va m'en vouloir si je dis ça. Putain, c'est trop dur. Il y a trop d'affect.
T'es en train de mouiller là.
Je suis en train de mouiller. Pronostic de mon tournoi. Je vais dire Bastien Blanquet et Thomas Legge.
D'accord. Je crois que l'année dernière, tu avais aussi pronostiqué Thomas et Bastien, de mémoire. Ça me dit quelque chose. Chez les femmes, est-ce qu'on voit vraiment une paire Lucille, Jess Gignier, venir un peu casser l'hégémonie d'Alix et Léa?
Je pense que c'est la finale annoncée avant l'heure. T'as une partie basse du tableau qui est assez dense aussi. T'as Carla Touli, Charlotte Soubrier, qui joue super bien,
qui ont une wildcard,
qui n'ont pas pu participer aux régionaux, qui se retrouvent dans la partie d'Alix et Léa. Je pense que là pour l'instant encore la marche est trop haute. Alix et Léa vraiment domine le paddle féminin, la tête et des épaules. Après c'est dur pour elle aussi parce que chaque tournoi, chaque championnat de France, faut assumer le statut. Bon, elle l'assume. L'année dernière, il y avait une demi incroyable contre Jess et Lucille où Alix et Léa s'en était sorti en 3-7. C'est la première fois que Alix et Léa avait perdu un 7 sur le circuit français. Je pense que c'est la finale annoncée avant l'heure. Là, sans mouiller, je pense qu'elles vont gagner ce championnat de France et sans perdre un 7, Nicolas.
C'est bien, j'aime bien quand t'es comme ça, plein d'assurance, mon JT, ça c'est beau ça. On va terminer ce par 3 de Viva Padel avec une actu qui est tombée il y a quelques semaines, mais on en a beaucoup parlé, ces circuits différents qu'il y avait au niveau du padel professionnel, ça rendait pas le padel illisible, mais c'était difficile pour le grand public de s'identifier. Tournoi du World Padel Tour, tournoi premier padel, A1 Padel, voilà. Ça y est, mon JT, on va avoir un circuit unifié en 2024. Donne-nous la configuration de ce circuit, comment ça va se passer, le nombre de tournois, on veut savoir s'il y aura des tournois en France, peut-être, je ne sais pas. Dis-nous plein de choses.
Alors, par où commencer? Le premier paddle a racheté le circuit privé du WAP Paddle Tour. Voilà, donc le circuit paddle devient le circuit principal du paddle mondial. Ils calquent un peu leur politique comme au tennis avec vraisemblablement, ça encore, j'ai quelques infos, 24 tournois premier paddle l'année prochaine, avec 3 catégories de tournois. Une catégorie grand chelem, major, qu'on appelle major, donc 4 tournois. Une catégorie P1, qui vont représenter comme un peu les masters du Wapal Tour ou les masters Milo tennis. Et ensuite des premiers paddles P2, qui vont représenter la catégorie d'en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un P2 représente l'équivalent d'un Open du Wapal Tour avec un petit peu plus de prize money. Donc c'est vraiment 24 tournois élites et c'est un circuit mondial. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir beaucoup de moins de tournois en Espagne. Il allait avoir un peu des tournées un peu américaines, sud-américaines, des tournées au Moyen-Orient, une tournée européenne où les joueurs vont s'enchaîner les semaines sur les continents. 24 tournois l'année prochaine qui rapportent un nombre de points, les majors rapportent plus de points, P1 plus de points, les P2 plus de points.
Dans les majors, il y aura bien évidemment Roland, Rome, on va
les majors. Tu as Acapulco, Monterrey au Mexique, là où est né le paddle, tu as le Qatar, tu as Rome au Foro Italico et le Grand Chelem de Paris.
Voilà.
Ensuite, les P1, les P2, pas encore d'informations sur le calendrier, ça va tomber, c'est ça, incessamment sous peu. Et ça nous promet, je pense, pour tous les amateurs de paddle déjà, va y avoir une vraie visibilité. Pour les joueurs, ben, va y avoir vraiment des conditions qui vont être extraordinaires. Il y aura moins de tournois, l'intégrité physique du joueur va être préservée, on aura vraiment un vrai circuit.
Et puis le prize money, mon JT, c'est pas le... De ce qu'on nous dit, des infos qu'on peut avoir, ce sera quand même pas le même prize money.
Prize money de dingue, conditions de dingue, médias de dingue, voilà. Vraiment, là, je pense qu'on rentre dans la nouvelle ère du paddle. Et,
c'est le virage à pas louper, quoi.
C'est le virage à pas louper, exactement. Petit hic, j'aurais adoré, moi, qu'il y ait une entente pour ce sport. Hein, là, je raisonne vraiment pour ce sport, que tous les circuits soient unifiés. Ouais. Que l'A1 Paddle aussi, que les joueurs de l'A1 Paddle rejoignent aussi le premier paddle. Ça, c'est des sujets politiques, des sujets que je maîtrise moins.
L'A1 va être complètement étouffé par ce circuit.
Ouais, mais l'A1, voilà, ils ont signé un contrat avec les Yankees aux États-Unis, tu vois. Ils vont rester quand même aussi un circuit avec leurs joueurs. Ça va être le circuit secondaire, mais moi, je pense que pour le bien de ce sport-là, il doit y avoir vraiment un seul circuit médiatisé avec tous les meilleurs joueurs de paddle. Et bon, voilà, c'est déjà une super marche. On verra dans les années à venir si l'A1 rejoint le premier paddle. Je l'espère en tout cas. Certains joueurs comme Raleigh Brown ont parlé là-dessus, ouais, sur ce sujet-là, tu vois. Moi, je parle du bien du paddle. Voilà, il faut mettre de côté les égos, il faut mettre de côté les enjeux politiques, les enjeux financiers. Et pour faire grandir ce sport tous ensemble, et moi je suis très heureux.
Ça va être génial. Et puis en termes de visibilité, c'est-à-dire que si vous écoutez cours numéro 1 là, et que pour la première fois vous êtes fan de tennis, vous avez switché sur Viva Padel, en gros ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être un peu un délire circuit de tennis où on aura les grands chelems, les Master 1000 comme disait JT, et ces fameux P2 qu'on peut assimiler à des ATP 500. Oui. Voilà, ça sera un petit peu ça le délire.
Et surtout voilà, Nico, c'est que le premier paddle, tu vois, c'est associé avec la Fédération Internationale, ouais, de Paddle. Donc t'as aussi ce circuit là qui va être secondaire, les FIP Platinum, les FIP Gold, les FIP Star, les FIP Prize. Pour les joueurs, ça va être vraiment, voilà, va y avoir une évolution. On va gagner des FIP Prize, on va passer en FIP Star, puis en FIP Gold pour aller jouer Roland Garros. Ouais. Enfin, voilà, c'est
pour
vraiment
passer en P2 pour rentrer
exactement
dans les tableaux.
Voilà,
donc ce circuit secondaire va rester là. Ça sera peut-être des challengers,
et comme nous, au tennis, des challengers et des futurs de tennis dans le monde entier. Tous les joueurs vont pouvoir jouer leur tournoi. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ce qu'il fallait pour le paddle. Voilà, ça fait 2 ans que c'est compliqué. Premier paddle est arrivé, les joueurs font le paddle tour, certains tournois sont un peu laissés de côté, les joueurs ont des années, on tiennent leur contrat, sont sous contrat avec le paddle tour jusqu'à la fin de l'année. Derrière, voilà, ils ont vraiment besoin d'oxygène, de souffler, ils vont avoir un circuit pour eux, avec l'association des joueurs, fait pour eux, fait par eux, et je suis très heureux pour le paddle et pour le développement de ce sport. Ça va être quelque chose d'extraordinaire qui va arriver.
Ah, il me fout les poils, ce JT.
Non, mais ça va être, on a tenté tout ça, et puis voilà, ça va être transmis sur Canal+, toutes les étapes, même pour les diffusions. Et puis voilà, les joueurs, va y avoir dans l'année vraiment 4 grands chelems vraiment importants, des tournois de préparation. Pour être numéro 1 mondial, il va falloir participer à toutes les étapes. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a aussi cette association des joueurs, et que c'est pas un circuit fermé, c'est pas un circuit privé. Premier paddle n'oblige pas les joueurs contractuellement à jouer leur tournoi. C'est-à-dire que t'as pas envie de jouer, ben tu viens pas jouer. Mais bon, si tu viens pas jouer, t'es pas numéro 1 mondial
ça,
à la fin de l'année.
Places.
Tu perds des places, tu vois. Alors que le Opel Tour, contractuellement, il pouvait faire que ça. Donc voilà, moi j'aime bien la philosophie qui est mise en place, même si on entend un peu sur les réseaux, voilà, c'est encore le Qatar qui a racheté le truc, le machin.
Il y aura toujours des détracteurs.
Sans doute, mais qui est détracteur, c'est bien parce que ça prouve que le paddle évolue. Mais moi je dis merci au Qatar, voilà, hein, merci à QSI d'avoir paillé sur ce sport-là. Et
on va titrer ça là sur le podcast là. Titre du podcast, Jean-Thomas Perrou, 2 points, merci le Qatar. Mon JT, on a bien débriefé un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est l'heure de la Puerta JT consacrée au physique dans le padel. C'est parti.
RMC Viva Padel, la Puerta de JT.
Et pour cette Puerta de JT, vu que t'es une machine physique, mais quand même que quand t'étais joueur et en tant que coach, tu t'aides avec des préparateurs physiques, bien évidemment. T'es staffé, comme on dit.
Je suis jusqu'au bout des ongles.
Gaël Le Glédic est avec nous. Il est prépa physique. Salut Gaël.
Salut à vous
deux.
Salut
mon Gaël.
Alors Gaël qui est à Toulouse là, hein, pour les championnats de France.
Et oui.
Ça y est, il prépare un peu les joueurs parce que ça va commencer là. Donc
Gaël qui suit dans un super centre de réalisation à Bordeaux, qui s'occupe de la préparation physique de Dorian Demeyer, Thomas Van Bosse que j'accompagne, et de Benjamin Gruet.
D'accord.
Voilà.
Bon, Gaël, avec toi, on va parler un petit peu des spécificités pour se préparer physiquement pour jouer au padel. Alors là, les gens qui nous écoutent et qui sont au niveau amateur, ils se disent « Non, mais moi, j'ai peut-être pas besoin d'être une machine de guerre physique pour jouer au padel. » Et ça, déjà, JT, on va pas dire que c'est une erreur, mais quand on commence même à jouer des P100, des P250, on se rend compte très rapidement que le physique, ça a une importance monstre, parce que les tournois sont longs déjà, que tout ce qui est vivacité et réactivité, c'est capital pour gagner des points. Il faut que tu nous parles de toutes ces données physiques dans ce sport.
Il y a, quand les joueurs commencent à découvrir le paddle et qu'ils connaissent pas très bien ce sport, il y a les vitres, les échanges durent pas beaucoup, ils se disent « c'est pas très physique ». C'est ce qui m'est arrivé à moi. Quand j'ai commencé à jouer au paddle pour la première fois, je suis rentré sur une piste. J'étais très en mode, j'aime bien la muscu, la dépense physique, tu vois, la dépense énergétique. J'ai joué pour la première fois avec mes bases tennis. Je suis sorti de l'heure de paddle. J'avais l'impression que j'avais pas fait de sport. Dès que tu commences à jouer, eh bien, les échanges durs et l'explosivité est hyper importante. Et puis même pour nos auditeurs qui nous écoutent, il y a plein de blessures. Pour la prévention des blessures, le renforcement musculaire dans ce sport, on dit pas, mais la raquette est pleine, l'épicondylite, un peu le coude, un peu la cheville. On voit plein de joueurs qui se blessent. C'est très important d'avoir une préparation physique. Dès qu'on fait un peu de compétition, c'est primordial.
Bien sûr.
Tous les joueurs maintenant professionnels passent plus de temps à la salle du muscu que sur une piste de paddle.
Et ça, c'est super important, Gaël. Alors, on va parler des pros après et de ce que toi, tu peux mettre en place avec tes joueurs pros. Mais pour un amateur, déjà, qu'est-ce que tu conseillerais à un amateur qui veut bosser ou qui veut juste s'entretenir pour essayer d'améliorer un petit peu sa performance sur le terrain? J'imagine que le jeu de jambes, tout ce qui est pliométrie, c'est capital au paddle.
J'ai envie de dire oui que c'est un domaine qui est très très intéressant et qui nécessite pas beaucoup de matériel, donc c'est facile à mettre en place avec les échelles de rythme, des mini-haies, des plots. Après, derrière, cette forme de travail, elle est quand même sollicitante. Donc en fait, dans un premier temps, moi je pense qu'il est hyper important de repartir par des bases assez simples. On parle beaucoup de préparation physique générale. Préparation physique générale, c'est quoi? C'est les trois grands patterns de mouvement. Ça va être les flexions-extensions, tout ce qui va être les squats, donc sans forcément travailler à la barre. Les patterns de répulsion, les poussées, donc tout ce qui va être pompe, développé, et les patterns de tirage, donc les tractions. Donc ces grands patterns, déjà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, je pense que c'est très important de stabiliser ça. Et il y a une façon très simple, j'ai envie de dire, de faire un peu de préparation, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les kettlebells, par exemple.
Alors, explique-nous ce que c'est.
Les kettlebells, c'est une espèce de poids avec un poids avec une anse. Tu as des kettlebells qui sont réglables, tu as des kettlebells qui vont de 2 kg en 2 kg, donc tu commences à 2 kg et tu peux avoir des kettles de 40, même d'un peu plus. Et donc, dans l'idée, c'est d'avoir un petit matériel et de faire des grands mouvements de muscu, type des goblet squats, quoi. Tu tiens le kettle dans la main, pleine main, et tu fais tes patterns, tes flexions, tes extensions. Tu peux avoir aussi du travail unilatéral, des presses, donc des développés à une main. Cette forme de travail, en fait, elle est très, très simple, mais en fait, ça va te poser les bases. Pour moi, tu vois, l'idée, c'est d'essayer de refaire un petit peu de masse musculaire, développer, faire le secteur de l'hypertrophie en départ, tu vois, repréparer tes tendons à des charges un peu plus lourdes pour ensuite, après, derrière, aller vers la barre tranquillement. Donc là, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd, type squat, front squat, etc. Tu vas avoir développé. Et donc là, tu vas peut-être pouvoir travailler ton secteur de force max, voire de puissance. Donc, parce que tu as maîtrisé un peu les patterns. Et de deux, ensuite, derrière, comme tu dis, pour moi, mettre les échelles de plio dans un premier temps, c'est un peu compliqué.
D'accord.
Tu vois, c'est-à-dire que c'est pareil. Avant de mettre des échelles de plio, en fait, je vois, ça s'est vachement démocratisé par le tennis. Donc, tu demandes à quelqu'un d'aller à fond. Sauf que tu mets vraiment des grosses contraintes. Donc, moi, je pense qu'à la base, tu vois, l'idée, c'est
des
refaire
squats,
des choses simples.
Voilà. Des trucs très simples.
Très simples. Il y a des petits circuits au kettlebell, tu vois. Tu passes sous forme de circuit. Tu fais des goblet squats, un 3x8 reps, tu fais des presses une main, un 3x8 par bras, des tirages une main, un 3x8. Et ça, cette séance, elle t'a duré 45 minutes, tu vois. Donc déjà, si tu arrives à caler un petit truc comme ça, c'est déjà une bonne chose.
J'étais toi... Ouais, Gaël, attends, je demandais juste à JT. Moi, il y a une question qui revient beaucoup sur les pistes de padel quand on est amateur et tout ça. C'est, ouais, j'ai pas de bras, j'arrive pas à smasher fort. Est-ce que la muscu sur le haut du corps, ça t'aide à gagner vraiment en puissance?
Bah, si tu vois les joueurs sur le circuit mondial, Stupa, est-ce que tu penses qu'il est très développé musculairement?
Non.
Dire en termes de volume.
Ouais, en termes de non.
Non, il est hyper élastique. C'est la vitesse du bras qui est importante. Moi, ma partie physique, c'est moins mon domaine. Gaël est beaucoup plus spécialisé que moi là-dedans. C'est pour ça que moi, à l'académie, je m'entoure de personnes compétentes dans chacun de son domaine, que ce soit la prépa mentale ou la prépa physique. De ce que je vois, c'est qu'il faut individualiser beaucoup en fonction du type de joueur que tu as, tu vois, en face de toi. Forcément, pour se matcher plus fort, ben, il faut faire du renforcement musculaire de l'épaule et ça part aussi beaucoup du transfert du bas du corps au haut du corps. Au paddle, la ceinture abdominale, la sangle abdominale est hyper importante. Je crois que c'est la base un peu aussi de ce jeu-là. Et puis ça développe, Gaël pour en parler, un peu toutes les qualités un peu physiques. Faut avoir l'explosivité, faut être endurant pour tenir la compète sur tout un week-end. Il faut sauter haut, il faut frapper fort, il faut courir vite. Voilà, c'est un sport hyper complet, hyper dense.
Du coup, Gaël, toi, qu'est-ce que tu bosses un peu avec tes joueurs pro? Parce que JT le disait, c'est ultra complet. Déjà, combien de séances t'as par semaine avec eux, dans l'idéal, on va dire? Et voilà, raconte-nous un petit peu ce que tu fais avec eux.
JT, il a très bien dit, il a dit un truc très juste, c'est qu'à haut niveau, tu individualises. Donc ça veut dire quoi concrètement? Moi, la première étape que j'ai, c'est que je fais un bilan avec un kiné du sport, où on mesure les ratios des rotateurs internes et externes de l'épaule, on mesure les ratios quadri-ischio, adducteur fessier, abdos lombaires. On fait des grands ratios pour voir l'équilibre du corps. Derrière ça, on a assez de retours pour savoir si les ratios ils sont corrects ou s'ils sont déficitaires. À partir du moment où ils sont déficitaires, ça va me donner des axes de travail à corriger et à développer. C'est-à-dire que je vais avoir les points faibles. Et là, ça va me donner des routines de travail. Donc dans un premier temps, en plus il l'a dit, on a le cas de deux athlètes, tu prends un Thomas Van Bos et un Dorian De Meyer qui physiquement sont deux extrêmes et qui n'ont pas les mêmes qualités.
Donc ouais, tu vois, un grand plutôt puissant et un petit, on va dire.
Très endurant, qui ramène, qui remet, qui se déplace vite. Je vais avoir deux secteurs. Et donc dans ces moments-là, tu vois, je sais que par exemple un Dorian De Meyer qui aura tendance à pas forcément avoir confiance dans sa frappe, l'idée c'est d'arriver à le développer un petit peu au niveau du haut du corps. De façon à ce que s'il se sente puissant, déjà qu'il ait confiance en lui et qu'il se sente progresser dans ce secteur.
Et du coup, comment tu fais, juste pour un amateur, comment tu fais un peu, quel exercice là tu peux nous donner pour améliorer sa puissance de frappe sa puissance musculaire dans l'épaule?
Concrètement, globalement, en termes de grands mouvements, comme je t'ai dit, c'est tous les mouvements de répulsion. Donc basique, qui passe par des pompes, après des pompes un peu plus évoluées où tu les fais des pompes en appui décalé de façon à avoir des pompes un peu plus plio. Ça va être aussi tout ce qui va être développé en halter. Je vais utiliser des techniques de contraste de charge, faire des répétitions lourdes suivies des répétitions explosives ou avec des lancers de medicine ball. Ça va être aussi en fonction du temps que j'ai avec eux. Comme tu l'as dit, il y a des périodes où je vais avoir du temps pour développer, donc je vais pouvoir... évoluer et si j'ai 6 semaines, j'établis un programme qui est assez progressif pour aller de l'hypertrophie à la force pour aller vers la puissance max. Pareil. Et il y a des fois, on fait un peu ce qu'on peut parce que quand tu prends un Thomas et un Dorian qui devaient sillonner un peu l'Europe et le monde pour aller récupérer des points et que tu y vas au dernier moment parce que tu sais pas si t'es rentré ou tu vas dans le tableau, t'essayes de faire ce que tu peux. Donc, en fait, tu prends un TRX avec toi. Et puis tu leur laisses des routines de travail simples qu'ils peuvent faire quand ils sont en déplacement et quand ils reviennent, tu te réattelles avec le temps disponible. Et c'est très très compliqué en fait.
Le TRX c'est un peu l'outil de base.
Un
aussi,
super outil.
Si tu veux bosser,
si tu dois donner des choses très simples, si t'as pas de matos, tu prends un kettlebell. Avec un kettlebell, tu fais beaucoup de choses. Et si t'as pas de barre, tu prends un TRX et tu fais des choses hyper intéressantes. Et du coup,
dernière partie, Gaël, avec toi, comment on bosse un peu son endurance au padel? Parce que JT le disait, en plus il y a des matchs JT qui sont de plus en plus longs quand même, enfin de plus en plus intenses et où il faut avoir un cardio vraiment préparé. Mais moi je le vois même sur des petits tournois amateurs, des P250 hein, en un an et demi.
Quand je jouais, moi c'était pas forcément sur le match où je manquais d'endurance, tu vois, c'est sur l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire que tu vois, la dépense énergétique est très importante. Mais en tout cas, moi je vais parler de mon cas personnel. Sur un point, j'étais rarement essoufflé. C'est-à-dire que je pouvais enchaîner les points. Par contre, à garder cette explosivité tout au long d'un week-end, tout au long d'une semaine, c'est ça qui est dur. C'est-à-dire que les matchs, ils s'enchaînent, les matchs, ils sont durs. Et tu voyages beaucoup. Et avoir vraiment le même physique, la même densité physique tout au long du tournoi, moi, c'est là quand je parle d'endurance. Parce que le terrain, il fait 200 mètres carrés. On est 4 sur la piste. Donc forcément, le terrain à couvrir est moins important. Donc tu as beaucoup d'explosivité, de démarrage rapide. Et tu peux aussi t'appuyer sur ton partenaire. Donc voilà, moi j'étais rarement très essoufflé à la fin d'un point. Mmh. Voilà. Mmh. Mais par contre, de pouvoir enchaîner les matchs, c'est ça qui est dur au padel.
Gaël, c'est quoi ? C'est beaucoup de fractionnés, toi, pour travailler un peu tout ça ? Qu'est-ce que tu mets en place ?
Comme le digité aussi, ça va dépendre du profil de ton joueur. Est-ce que c'est quelqu'un de très explosif et qui va avoir du mal à répéter des efforts explosifs, ou quelqu'un d'assez endurant et qui va avoir du mal à répéter, qui va avoir du mal à développer sa Pmax. J'ai envie de t'as deux secteurs, t'as des gens qui sont assez à l'aise, qui ont une bonne aéro. Dans ces cas-là, bah écoute, j'irais tendance à accentuer un peu le travail de plio, vitesse, de façon à les tirer vers le haut. Et les autres, ceux qui sont plutôt explo, bah travailler ce que tu viens de dire, du travail d'intermittent court, qui va me permettre de booster un peu toute la notion de puissance aérobie et qui va me permettre de maintenir le niveau de puissance. Après, derrière, le très long, j'y crois pas vraiment pour un joueur de padel, mais par contre, tu vois, j'instaurerais aussi entre les séquences intenses, bah, des séquences de récup d'endurance fondamentale à très basse intensité. Ça peut être pas forcément de la course à pied classique dans l'axe, parce que t'es pas un sport dans l'axe, mais tu peux utiliser des ergos. Tu peux utiliser des ergos, du rameur, du airbike, de l'elliptique. Et en fait, tu fais des petits circuits pour drainer, pour améliorer ça. Ça, c'est hyper important. Je pense que les gens disent, je manque de cardio, donc qu'est-ce que je fais ? Je fais du fractionné. Oui, c'est bien, mais si tu t'entraînes déjà 4 fois à haute intensité, tu rajoutes une haute intensité, il te manque de la basse intensité pour pouvoir améliorer et stabiliser ton VO2.
Donc faut, en fait, faut absolument mixer basse intensité et haute intensité. Pas faire
exactement.
Que...
Okay. Comme dans les entraînements, en fait. T'augmentes ton niveau d'entraînement, mais si tu fais que des parties, et derrière tu travailles jamais techniquement quelque chose, ton point fort, ton point faible, bah en fait tu progresseras pas dans ton jeu. Et physiquement en plus, t'es toujours dans la même sollicitation, donc c'est assez compliqué. Il faut trouver un bon ratio, et encore une fois, t'as des gens qui sont capables de s'entraîner 20-25 heures la semaine et qui ont besoin de ça pour être performants, et t'en as d'autres qui ont plus de qualité et qui ont besoin d'un peu moins. Et ces gens-là, il ne faut pas les surentraîner, en fait.
Bien sûr.
Ils sont
bien
efficaces.
Ça, tu as raison sur la charge de boulot. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas en faire trop, JT.
Ouais,
et ça, c'est important. Même sur des joueurs, parce qu'on voit que là, maintenant, il y a plein de bons joueurs qui ont envie de se lancer dans des projets padel et tout ça, et qui ont tendance pendant 6, 8, 10 mois à s'y filer comme jamais et à quadrupler, quintupler leur charge de travail, et du coup derrière des petites blessures. Donc il faut faire attention à ça, j'imagine.
Bien sûr, c'est hyper important, voilà, de pas partir trop fort quand les joueurs commencent à s'entraîner. Moi j'en ai quelques-uns là qui viennent d'arriver, 3-4 nouveaux joueurs. Voilà, on essaye vraiment de faire piano-piano, qui est vraiment une évolution, parce que quand ton corps est pas habitué, et puis on le voit au paddle, même sur le circuit professionnel, il y a énormément de blessures, quoi.
Ouais.
Donc moi, ce que je leur dis, c'est que la récupération fait aussi partie de l'entraînement.
Ouais.
Ces phases-là de récupération sont hyper importantes. Voilà, pouvoir permettre au corps de se régénérer, et c'est souvent là. Gaël pourra en parler mieux que moi, mais c'est souvent dans ces périodes-là aussi que le corps se transforme, que le corps travaille. Lorsqu'on a bien bossé, voilà, qu'il y a une phase de récupération 24 heures, 48 heures, c'est pas ne rien faire, mais faire des adapter son corps par rapport à la charge de travail, c'est primordial.
Ouais. Toi, Gaël, dernière question, mais sur tout ce qui est prévention des blessures. Bon, on imagine que les tendons morflent la mort, voilà, que l'épaule. Ah, ça vient de sonner.
C'est la sonnerie.
Non, c'est pas la récré. Faut changer de terrain. Allez, on quitte la piste. Ça tourne. Excuse-nous, Gaël. Ouais, pour les gens qui découvrent Viva Padel, hein, mais on enregistre en direct de Big Padel à Bordeaux. Donc voilà, c'est pour ça que vous entendez des bruits de balles. Tout à l'heure, il pleuvait. Il y avait peut-être un peu la pluie sur le toit, mais bon. On espère en tout cas que vous êtes dans l'ambiance Padel. Ouais, je te disais, Gaël, au niveau de la prévention des blessures, toi, quelle pathologie tu rencontres le plus et sur quoi t'es vraiment vigilant, quoi, pour tes joueurs?
L'épaule, pathologie de l'épaule. Les smatchs répétés à haute vitesse, forcément, des grosses problématiques de tendinopathie d'épaule. Donc souvent, c'est lié aussi à un déficit, un peu de stabilisateur des épaules. Donc on travaille énormément les rotateurs externes, le tirage. Tous les stabilisateurs, ça c'est hyper important, parce que les smatchs répétés, c'est un mouvement forcé de rotation interne, donc c'est un excès de rotation interne souvent. Donc bah je vais au contrepoint, je vais faire l'inverse en fait, tu vois. Je prends le contre-pied et on fait beaucoup de rotateurs externes. Donc ça passe par beaucoup de travail qui sont issus de la réhabilitation. Donc ça c'est un peu l'expérience qu'on a à travailler avec des kinés aussi. On a des petits tips, j'ai des petites routines d'épaule que je mets en place, type Arlo, type lancer de balle lestée, ouais. Des maintiens de kettlebell aussi, des techniques de force endurance où tu dois rester la main en haut, la main à 90 avec un poids de façon à stabiliser un peu tout ça. Donc ça, c'est des grosses routines que j'impose énormément. Et au niveau de la hanche aussi, donc avec les déplacements, tu peux avoir des gros problèmes au niveau adducteur. Ça, c'est des tendinopathies que tu vas retrouver beaucoup. Donc là, je vais mettre beaucoup de routines et de mobilité au niveau de la hanche et d'exercices de renforcement assez simples au niveau du moyen fessier et des adducteurs pour sensibiliser un peu les gens au fait que quand tu t'entraînes beaucoup et que ça commence à tirer, c'est déjà un peu tard. Donc dans l'idée, c'est de mettre en place ces routines assez fréquemment tout le long de l'année pour éviter justement les surcharges, quoi. Et souvent, ça vient d'un déficit de force et d'un déficit de mobilité. Donc, c'est souvent les deux, tu vois. Manque de force, manque de mobilité. Problème après derrière, tendineux qui surviennent et il faut du temps pour le réparer. Mais si tu le prends.
Bon, vous avez compris, les amis, en tout cas. Faut bosser. Faut bosser physiquement. Ouais. Faut se préparer. Non, mais JT, par
exemple. Oui, Nico, il faut bosser physiquement. Mais oui, bien mon sûr. Garçon, t'es un peu en. Ouais, t'es en gros cycle. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Coupe du Monde du rugby.
Je sors de l'été. voilà, on s'est laissé aller. Mais là, je suis en mode sèche. Ça y est. Dernière question, mon JT. Est-ce que tu conseilles, à partir de quand tu conseilles à un joueur de padel, même sur du P100, P250, de se mettre au physique et.
À partir du départ. Même pour la vie en général, je crois que c'est important, la prévention des blessures, le truc, le machin, dès le départ. Je pense qu'une activité physique, même le paddle ou autre, nécessite une préparation physique ou alors un entretien. Voilà, je pense que c'est important. Un peu de renforcement musculaire, excuse-moi Nico, améliorer un peu sa souplesse. Et puis comme l'a dit Gaël, je crois que c'est très important, quoi. Voilà.
Ouais. Gaël, merci beaucoup.
Merci à vous deux.
C'était super intéressant. Merci pour cette partie physique. Bon championnat de France avec tes joueurs.
J'y vais direct là.
Ouais. Bon courage. JT, c'est terminé pour cet épisode de Viva Padel.
Extraordinaire, c'est passé. Je suis pas mal, quoi. On va faire que à deux, je pense, maintenant, non?
Tu penses?
Je sais pas.
Tu crois que t'as écarté la concurrence aujourd'hui?
J'ai l'impression!
Il a écarté la concurrence, celui-là. Épisode de Viva Padel la semaine prochaine. Hein, bien évidemment, on débriefera les championnats de France. On sera avec les champions, les championnes de France. On verra qui sera disponible, mais on va essayer de revenir un max sur cette compétition. Vous n'oubliez pas. Allez nous noter, c'est super important sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous avez tous les épisodes de Viva Padel. Si vous découvrez à peine le podcast, il y a plein d'épisodes très sympas. On vous présente la carrière des joueurs français. On détaille un maximum de résultats, tout ce qui se passe sur le circuit pro. Il y a dans chaque podcast une petite rubrique tactique et technique, rien que pour vous les débutants, si vous découvrez le Padel. Mon JT, bye bye.
Salut,
à la semaine
Nico,
prochaine
salut
et vive le Padel. Ciao.
RMC, Viva Padel.